Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Et nous voici de nouveau ensemble pour la suite des aventures de Bardamu, le personnage de Louis-Ferdinand Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Bardamu est à New York. Le lendemain, je suis repassé par le consulat, histoire de demander si on n'avait pas entendu parler des fois d'un Français nommé Robinson. Sûr, bien sûr, qu'ils m'ont répondu les consuls. Il est même venu ici nous voir deux fois. Et il avait des faux papiers encore. La police le recherche. Vous le connaissez ? Je n'ai pas insisté. Dès lors, je me suis attendu à le rencontrer à chaque instant, le Robinson. Je sentais que ça venait. Molly continuait à être tendre et bienveillante. Elle était même plus gentille encore qu'avant, depuis qu'elle était persuadée que je voulais m'en aller définitivement. Ça ne servait à rien d'être gentil avec moi. Avec Molly, nous parcourions souvent les environs de la ville pendant ces après-midi de congé. Des petits tertres pelés, des bosquets de bouleaux autour de lacs minuscules, des gens à lire par-ci, par-là, des magazines grisailles sous le ciel tout lourd de nuages plombés. Nous évitions avec Molly les confidences compliquées. Et puis elle était fixée. Elle était trop sincère pour avoir beaucoup de choses à dire à propos d'un chagrin. Ce qui se passait en dedans lui suffisait, dans son cœur. On s'embrassait. Mais je ne l'embrassais pas bien, comme j'aurais dû à genoux en vérité. Toujours je pensais un peu à autre chose en même temps, à ne pas perdre du temps et de la tendresse, comme si je voulais tout garder pour je ne sais quoi de magnifique, de sublime pour plus tard, mais pas pour Molly, et pas pour ça. Comme si la vie allait emporter, me cacher ce que je voulais savoir d'elle, de la vie au fond du noir, pendant que je perdais de la ferveur à l'embrasser. Et qu'alors j'en aurais plus assez, et que j'aurais tout perdu au bout du compte pour manquer de force, que la vie m'aurait trompé comme tous les autres, la vie, la vraie maîtresse des véritables hommes. Nous revenions vers la foule, et puis je la laissais devant sa maison, parce que la nuit elle était prise par la clientèle jusqu'au petit matin. Pendant qu'elle s'occupait avec les clients, j'avais tout de même de la peine, et cette peine me parlait d'elle si bien que je la sentais encore mieux avec moi que dans la réalité. J'entrais dans un cinéma pour passer le temps. À la sortie du cinéma, je montais dans un tramway, par-ci, par-là, et j'excursionnais dans la nuit. Après 2 heures sonnées, montaient les voyageurs timides d'une espèce qu'on ne rencontre guère avant ou après cette heure-là, si pâles, toujours et somnolents par paquets dociles, jusqu'au faubourg. Avec eux, on allait loin. Bien plus loin encore que les usines, vers les lotissements imprécis, les ruelles aux maisons indistinctes. Sur le pavé gluant des petites pluies d'aurore, le jour venait reluire en bleu. Mes compagnons du train disparaissaient en même temps que leurs ombres. Ils fermaient leurs yeux sur le jour. Pour les faire parler, ces ombreux, on avait du mal, trop de fatigue. Ils ne se plaignaient pas, non. C'est eux qui nettoyaient pendant la nuit les boutiques et encore des boutiques et les bureaux de toute la ville après la fermeture. Il semblait moins inquiet que nous autres, gens de la journée. Peut-être parce qu'ils étaient parvenus, eux, tout en bas, des gens et des choses. Une de ces nuits-là, comme j'avais pris un autre tramway encore, et que c'était le terminus et qu'on descendait prudemment, il m'a semblé qu'on m'appelait par mon nom. « Ferdinand ! Hé, Ferdinand !» Ça faisait comme un scandale, forcément, dans la pénombre. J'aimais pas ça. Au-dessus des toits, le ciel revenait déjà par petits paquets bien froids découpés par les gouttières. Sûr qu'on m'appelait. En me retournant, je l'ai reconnu tout de suite. Léon. Léon Robinson. En chuchotant, il m'a retrouvé. Et on s'est alors expliqué tous les deux. Lui aussi revenait de nettoyer un bureau avec les autres. C'est tout ce qu'il avait trouvé comme combine. Il marchait bien pondérément, avec un peu de véritable majesté, comme s'il venait d'accomplir des choses dangereuses et pour ainsi dire sacrées dans la ville. C'est le genre qu'il prenait d'ailleurs, tous ces nettoyeurs de nuit, je l'avais déjà remarqué. Dans la fatigue et la solitude, le divin, ça sort des hommes. Il en avait plein les yeux, lui aussi, quand il les ouvrait bien plus grands que les yeux d'habitude, dans la pénombre bleuie où nous étions. Il avait déjà nettoyé, lui aussi, des étendues de lavabos à ne plus finir et fait reluire de vraies montagnes d'étages et des étages de silence. Il a ajouté « Je t'ai reconnu tout de suite, Ferdinand, à la manière que t'es monté dans le tramway. Figure-toi, rien qu'à ta manière dont t'étais triste quand t'as trouvé qu'il n'y avait pas une femme. C'est-il pas vrai ? C'est-il pas ton genre ? » C'était vrai que c'était mon genre. Décidément, j'avais une âme débraillée comme une braguette. Rien donc pour m'étonner dans cette juste observation, mais ce qui m'a plutôt surpris, c'est que lui non plus, il aille pas réussir en Amérique. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Je lui ai parlé à lui du coup de la galère à Santa Peta, mais il comprenait pas ce que ça voulait dire. « T'as la fièvre ?» qu'il m'a répondu simplement. Lui, c'était par un cargo qu'il était arrivé. Il aurait bien essayé de se placer chez Ford, mais ses papiers, vraiment trop faux pour oser les montrer, l'arrêtaient. C'est juste bon à avoir dans sa poche, qu'il remarquait. Pour les équipes du nettoyage, on n'était pas difficile sur l'état civil. On ne payait pas beaucoup non plus, mais on passait la main. C'était une espèce de légion étrangère de la nuit. « Et toi, ben qu'est-ce que tu fais ?» qu'il a demandé alors. « T'es donc toujours cinglé ? T'en as pas encore assez des trucs et des machins ? T'en veux donc encore des voyages ?»« Je veux rentrer en France. » que je lui dis. J'en ai assez vu comme ça, t'as raison, ça va. Ben, tu fais mieux, qu'il m'a répondu, parce que pour nous, les pommes sont cuites. On a vieilli sans s'en apercevoir, je sais ce que c'est. Je voudrais bien rentrer aussi, moi. Mais c'est toujours les papiers. J'attendrai encore un peu pour m'en procurer des bons. On peut pas dire que c'est mauvais le boulot qu'on fait, y a pire. Mais j'apprends pas l'anglais. Depuis 30 ans dans le nettoyage, il y en a dans le même truc qui n'ont appris en tout que « exit » à cause que c'est sur les portes qu'on astique. Et puis « lavatory », tu comprends ? Je comprenais. Si jamais Molly venait à me manquer, je serais bien forcé d'aller m'embaucher aussi au boulot de la nuit. Il n'y a pas de raison pour que ça finisse. En somme, tant qu'on est à la guerre, on dit que ce sera mieux dans la paix. Et puis on bouffe cet espoir-là comme si c'était du bonbon, et puis c'est rien quand même que de la merde. On n'ose pas le dire d'abord pour dégoûter personne. On est gentil, somme toute. Et puis un bon jour, on finit quand même par casser le morceau devant tout le monde. On en a marre de se retourner dans la mouscaille. Mais tout le monde trouve d'un coup qu'on est bien mal élevé, et c'est tout. À deux ou trois reprises, après ça, on s'est donné rendez-vous avec Robinson. Il avait bien mauvaise mine, un déserteur français qui fabriquait des liqueurs en fraude pour les coquins de Détroit lui avait cédé un petit coin dans son business. Ça le tentait, Robinson. Bah, j'en ferais bien un peu, moi aussi, du raidillon pour leur sale gueule qu'ils me confiaient, mais vois-tu, j'ai perdu l'estomac. Je sens qu'au premier flic qui me travaille, je me dégonfle. J'en ai trop vu. Et puis en plus, j'ai tout le temps sommeil. Forcément, dormir le jour, c'est pas dormir. Sans compter la poussière des bureaux qu'on s'en remue plein les poumons, tu te rends compte? Ça crève un bonhomme. On s'est donné rendez-vous pour une autre nuit et je suis retourné trouver Molly, où je lui ai tout raconté. À me cacher la peine que je lui faisais, elle se donnait bien du mal, mais c'était pas difficile à voir quand même qu'elle en avait. Je l'embrassais plus souvent à présent, mais c'était du profond chagrin le sien, plus vrai que chez nous autres, parce qu'on a plutôt l'habitude, nous autres, d'en dire plus qu'il y en a. Chez les Américaines, c'est le contraire. On n'ose pas comprendre, l'admettre. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la jalousie non plus, ni des scènes, c'est rien que de la vraie peine du cœur. Et qu'il faut bien se dire que tout ça nous manque en dedans, et que pour le plaisir d'avoir du chagrin, on est sec. On a honte de ne pas être plus riche en cœur et en tout, et aussi d'avoir jugé quand même l'humanité plus basse qu'elle n'est vraiment au fond. De temps en temps, elle se laissait, Molly, entraîner tout de même à me faire un petit reproche, mais toujours en termes bien mesurés, bien aimables. « Vous êtes gentil, Ferdinand, » me disait-elle. « Et je sais que vous faites des efforts pour ne pas devenir aussi méchant que les autres, seulement, je ne sais pas, si vous savez bien ce que vous désirez, au fond. Réfléchissez bien. Il faudra que vous trouviez à manger de retour là-bas, Ferdinand, et ailleurs, vous ne pourrez plus vous promener comme ici à rêvasser pendant des nuits et des nuits, comme vous aimez tant le faire, pendant que je travaille. Vous y avez pensé, Ferdinand ? » Dans un sens, elle avait mille fois raison. Mais chacun sa nature. J'avais peur de la blesser, surtout qu'elle se blessait facilement. Je vous assure que je vous aime bien, Molly, et je vous aimerai toujours, comme je peux, à ma façon. Ma façon, c'était pas beaucoup. Elle était bien en chair pourtant, Molly, bien tentante, mais j'avais ce sale penchant aussi pour les fantômes. Peut-être pas tout à fait par ma faute. La vie vous force à rester beaucoup trop souvent avec les fantômes.
Montrez-vous quand même. les jours de communion, les baptêmes, bénissez les robes blanches, que les souillures un jour balayeront comme une avalanche. Que les souillures un jour balayeront comme une avalanche. On passe au pied d'une grande tour carrée, avec ses miradors. La pluie, la neige, la sueur sur le pavé, on y pense encore. C'est là qu'on a vécu et de toute manière. C'était tous nos frères. Et qu'on le veuille ou non, on peut plus s'en défaire. Sous la grande lumière des parkings déserts. Les chats tombés d'une gouttière, les visages tristes et sans paupières. Des enfants qui jettent des pierres, mon Dieu, montrez-vous quand même. Bénissez les robes blanches, que les souillures un jour balayeront. Les souillures un jour balayeront comme une avalanche. Et la nuit dans les draps, la seule chose qu'on veut pas et qu'on craigne encore, qui nous glace d'effroi, c'est le banlieue nord. On a beau tout faire, quand on remue la terre, ça bouge encore. C'était banlieue nord, et ça saigne encore. Et la nuit dans les draps, la seule chose qu'on ne parle et qu'on craigne encore, qui nous glace des froids, c'est banlieue nord. On a beau tout faire, quand on remue la terre, c'était banlieue du nord, et ça saigne encore. C'était banlieue du nord.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après l'instant musical habituel, nous revenons au Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Vous êtes bien affectueux, Ferdinand, me rassurait Molly. Ne pleurez pas à mon sujet. Vous en êtes comme malade de votre désir d'en savoir toujours davantage. Voilà tout. Enfin, ça doit être votre chemin, à vous, par là, tout seul. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Vous allez partir bientôt, alors? Oui. Je vais finir mes études en France. Et puis je reviendrai, lui assurai-je, avec culot. Non, Ferdinand, vous ne reviendrez plus. Et puis, je ne serai plus ici, moi non plus. Elle n'était pas dupe. Le moment du départ arriva. Nous allâmes un soir vers la gare un peu avant l'heure où elle rentrait à la maison. Dans la journée, j'avais été faire mes adieux à Robinson. Il n'était pas fier non plus que je le quitte. Je n'en finissais pas de quitter tout le monde. Sur le quai de la gare, comme nous attendions le train avec Molly, passèrent des hommes qui firent semblant de ne pas la reconnaître, mais ils chuchotaient des choses. « Vous voilà déjà loin, Ferdinand. »« Vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement ce que vous avez bien envie de faire. Voilà ce qui est important. C'est cela seulement qui compte. » Le train est entré en gare. Je n'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassée, Molly, avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse. J'avais de la peine, de la vraie, pour une fois, pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie, rien que cela, le plus grand chagrin possible, pour devenir soi-même avant de mourir. Des années ont passé depuis ce départ et puis des années encore. J'ai écrit souvent, à toutes les adresses dont je me souvenais et où l'on pouvait la reconnaître, la suivre, Molly. Jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Bonne, admirable Molly. Je veux, si elle peut encore me lire d'un endroit que je ne connais pas, qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle, que je l'aime encore et toujours à ma manière. Qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. Si elle n'est plus belle, eh bien tant pis, nous nous arrangerons. J'ai gardé tant de beauté d'elle en moi, si vivace, si chaude, que j'en ai bien pour tous les deux, et pour au moins 20 ans encore, le temps d'en finir. Pour la quitter, il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale et froide espèce. Tout de même, j'ai défendu mon âme jusqu'à présent, et si la mort demain venait me prendre, je ne serais, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, vilain, aussi lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêve, Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique. Ben, c'est pas le tout d'être rentré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours comme on l'a laissé à traîner par ici, poisseux, précaire. Il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy d'où j'étais parti, et aux environs aussi, à faire des petits métiers pour vivre du côté des Batignolles, paracomptable. Sous la pluie ou dans la chaleur des autos, juin venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford. Je les regardais passer, et passer encore, pour me distraire. Les gens filant vers le théâtre, ou le bois, le soir. Toujours plus ou moins seul, pendant les heures libres, je mijotais avec des bouquins et des journaux, et puis aussi avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études, une fois reprises, les examens, je les ai franchis à U et à Dia, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue, la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée. Des pots en masse, peu de confiture. Quand j'ai eu tout de même terminé mes 5 ou 6 années de tribulation académique, je l'avais, mon titre, bien ronflant. Alors j'ai été m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne rancie, dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Brancion. Je n'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus, rien, seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque, soupçonneux. Ils ont même été demander au commissariat de police si j'étais un bien et un vrai médecin. Oui, qu'on a répondu, il a déposé son diplôme, c'en est un. Alors il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin en plus des autres. « Ah, il gagnera pas son beefsteak après dit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà bien trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets avec des plaines bordées d'ahuris brinque-ballants dès le petit jour par le boulevard Minotaure qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblaient même comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, c'est mignon, en rigolant, faut voir ça. Mais quand on connaît depuis 20 ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale, qu'on la prend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent. Toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades, leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais. Il n'oserait pas se montrer, il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable, le proprio, quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit, du jus de fumée qui trempe la plaine depuis le Valois. Un rebut de bâtisses tenues par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy. Surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont poisseux qui se lance au-dessus de la Seine, ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur l'étang pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais, saine ou pas. Au matin donc, le tramway emporte sa foule se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là qu'il leur est arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle. Après chaque aurore, ça les prend. Ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes, grande déroute. C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris. Celui qui vous sauve de crever de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. Il vous l'a fait transpirer pourtant, sa pitance. On en pue pendant 10 ans, 20 ans et davantage. C'est pas donné. Et on s'engueule dans le tramway. Déjà un bon coup pour se faire la bouche. Les femmes sont plus râleuses encore que les moutards. Pour un billet en resquille, elles feraient stopper toute la ligne. C'est vrai qu'il y en a déjà qui sont saoules parmi les passagères, surtout celles qui descendent au marché vers Saint-Ouen, les demi-bourgeoises. « Combien les carottes ?» qu'elles demandent bien avant d'y arriver pour faire voir qu'elles ont de quoi. Comprimées comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer, on traverse tout Rancy et on odore ferme en même temps, surtout quand c'est l'été. Aux fortifications, on se menace, on gueule un dernier coup et puis on se perd de vue. Le métro avale tout et tous. Les complètes détrempées, les robes découragées, bas de soie, les métrites et les pieds sales comme des chaussettes, cols inusables et raides comme des termes, avortements en cours, glorieux de la guerre, tout ça dégouline par l'escalier au coaltar et féniqué jusqu'au bout noir avec le billet de retour qui coûte autant à lui tout seul que 2 petits pains. La lente angoisse du renvoi sans musique, toujours si près des retardataires. Quand le patron voudra réduire ses frais généraux, souvenir de crise à fleur de peau, de la dernière fois, sans place, de tout, des intransigeants qu'il a fallu lire, 5 sous, 6 sous, les attentes à chercher du boulot. Ces mémoires vous étranglent un homme, tout enroulé qu'il puisse être dans son par-dessus toute saison. La ville crache tant qu'elle peut ses foules de pieds sales dans les longs égouts électriques. Ils ne reviendront à la surface que le dimanche. Alors, quand ils seront dehors, faudra pas se montrer. Un seul dimanche, aller voir se distraire, ça suffirait pour vous enlever à toujours le goût de la rigolade. Autour du métro, près des bastions, croustille endémique l'odeur des guerres qui traînent, des relents de villages mi-brûlés, mal cuits, des révolutions qui avortent, des commerces en faillite. Les chiffonniers de la zone brûlent depuis des saisons les mêmes petits tas humides dans les fossés à contrevent. C'est des barbares à la manque, ces biffins pleins de litrons et de fatigue. Ils vont tousser au dispensaire d'à côté, au lieu de balancer les tramways dans les glacis et d'aller pisser dans l'octroi un bon coup. Plus de sang. Pas d'histoire. Quand la guerre, elle reviendra la prochaine, ils feront encore une fois fortune à vendre des pots de rat, de la cocaïne et des masques en tôle ondulée. Moi, je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qui est dessus, à regarder rien, avec son bras dans un gros coton blanc blessé du travail, qui sait plus quoi faire et quoi penser, et qui n'a pas assez pour aller boire et se remplir la conscience. Molly avait bien eu raison. Je commençais à la comprendre. Les études, ça vous change, ça fait l'orgueil d'un homme, il faut bien passer par là pour entrer dans le fond de la vie. Avant, on tourne autour seulement, on se prend pour un affranchi, mais on bute dans des riens, on rêve de trop, on glisse sur tous les mots, ça n'est pas ça. Ce n'est rien que des intentions, des apparences, faut autre chose aux résolus. Avec la médecine, moi, pas très doué, tout de même, je m'étais bien rapproché des hommes, des bêtes, de tout. Maintenant, il n'y avait plus qu'à y aller carrément dans le tas. La mort court après vous. Faut se dépêcher, et faut manger aussi pendant qu'on cherche, et puis passer en dessous la guerre, par-dessus le marché. Ça fait bien des choses à accomplir. C'est pas commode. Et nous avons terminé pour ce soir. Ce passage du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, que nous reprendrons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.